Nous étions début octobre, et il ne faisait pas très beau le lendemain de notre arrivée dans la marche styrienne, chez feu Joseph von Rammer-Purchtal. Un peu abruti par mon voyage en train, j'avais dormi comme un sonneur dans une petite auberge proprette au cœur d'un village qui m'avait paru, peut-être à cause de la fatigue du trajet ou du brouillard dense sur la route serpentante entre les collines pour venir de Graz, bien plus lointain que les organisateurs ne l'avaient annoncé. Dormi comme un sonneur, c'est bien le moment d'y penser. Peut-être devrais-je maintenant aussi trouver un moyen de m'abrutir, un long voyage en train, une course en montagne, ou arpenter les barres louches pour essayer de mettre la main sur une boulette d'opium. Mais dans l'Alzergrund, il y a peu de chances que je tombe sur une bande de teriyaki iraniens. Malheureusement, de nos jours, l'Afghanistan, victime des marchés, exporte surtout de l'héroïne, substance encore plus effrayante que les comprimés prescrits par le docteur Krauss. Mais j'ai bon espoir de trouver le sommeil. Et sinon, à un moment, le soleil finira bien par se lever. Toujours cet air de malheur dans la tête. Il y a 17 ans, essayons par un mouvement d'oreiller de chasser Rückert, malheur et tous les enfants morts. Sarah était beaucoup moins radicale dans cette position. Ou peut-être tout aussi radicale mais plus timide. J'essaye de la revoir descendre de cet autocar devant le château de Rheinfeld, ses cheveux roux, longs et bouclés. Ses joues rebondies et ses taches de rousseur lui donnaient un air enfantin qui contrastait avec son regard profond, presque dur. Elle avait déjà un je ne sais quoi d'oriental dans le visage, dans le teint et la forme des yeux, qui s'est accentué avec l'âge, me semble-t-il. Je dois avoir quelque part des photos. Sans doute pas de Rheinfeld, mais beaucoup de clichés oubliés de Syrie et d'Iran, feuilles d'album. Je me sens très calme maintenant, engourdi, bercé par le souvenir de ce colloque autrichien, du château de Rammer-Purchtal et de Sarah, sur son parvis, en train d'en contempler l'inscription arabe avec un hochement de chef incrédule et l'air ébloui. Ce même chef que j'ai observé osciller si souvent entre émerveillement, perplexité et froideur blasée. Celle dont elle fait preuve quand je la salue pour la première fois, après son intervention. Attiré par la qualité de son texte et, bien sûr, sa grande beauté. La mèche auburn qui dissimule son visage lorsque, un peu émue les premières minutes, elle lit son papier sur les monstres et les miracles des prairies d'or. Des goules terrifiantes, des djinns, des hins, des nisnas, des hawatifs, créatures étranges et dangereuses, pratiques magiques et divinatoires, peuples demi-humains et animaux fantastiques. Je m'approche d'elle en traversant la foule de savants qui se pressent autour du buffet de la pause café. Sur un de ces balcons à arcades, où s'ouvre la cour si italienne du château styrien. Elle est seule, appuyée à la rambarde, une tasse vide à la main. Elle observe la façade blanche de la chapelle, où se reflète le soleil d'automne, et je lui dis « Excusez-moi, magnifique intervention sur Massoudi, incroyable tous ces monstres !» Et elle me sourit gentiment sans rien répondre, en me regardant me débattre entre son silence et ma timidité. Je comprends immédiatement qu'elle attend de voir si je vais m'enfoncer dans des banalités. Je me contente de lui proposer de lui remplir sa tasse. Elle me sourit de nouveau. Et 5 minutes plus tard, nous sommes en grande conversation, à parler de ghouls et de djinns. Ce qui est fascinant, me dit-elle, c'est le tri qu'opère Massoudi entre créatures attestées, véridiques et pures inventions de l'imagination populaire. Les djinns et les ghouls sont bien réels pour lui. Il en recueille des témoignages acceptables.